Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Pendant ces quatre semaines de l'Avent, nous vous proposons de découvrir ou d'approfondir ce que disent les prophètes qui accompagnent ce temps de préparation à Noël. Cette semaine, c'est Isaïe qui nous accompagne. Isaïe est le grand prophète d'Israël. À quoi nous invite-t-il? Que nous fait-il découvrir du visage du Messie? Comment nous fait-il cheminer pour accueillir l'Emmanuel à Noël? Nous en parlons avec le père Cyprien Comte, prêtre du diocèse de Toulouse. Bonjour père.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes aussi responsable de la formation au diaconat permanent. Merci d'être là pour cette deuxième émission. Peut-être qu'on peut commencer par tout simplement rappeler qui était Isaïe, père Cyprien.
Qui est Isaïe? À quelle époque vit-il? Oui. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Dans le royaume de Juda, l'auditeur se rappelle peut-être qu'il y avait deux royaumes à l'époque, Israël au nord jusqu'en 722 et Juda au sud qui continuera d'exister encore un petit peu plus de 130 ans jusqu'en 587. Isaïe est donc un homme de la cour du roi de Jérusalem, sans doute un aristocrate. Il vit au 8e siècle. Certains pensent qu'il est né vers 765 et il a reçu une vocation prophétique dans le temple. On va en parler.
Et le roi, comment s'appelle-t-il?
Alors, il y a un certain nombre de rois qui se succèdent pendant le ministère prophétique du prophète Isaïe. Alors, je tourne les pages de ma Bible pour vérifier. Au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias. Isaïe est un immense prophète, et ne serait-ce que pendant sa vie terrestre, donc le livre d'Isaïe nous rapporte qu'il a vécu en même temps que quatre rois successifs à Jérusalem.
Voilà, on ne sait pas combien de temps ont duré ses règnes, mais on imagine qu'il...
Oui, on a quelques repères.
On a quelques repères. Voilà. Donc,
et en tout cas, le ministère d'Isaïe a pu commencer donc, dans le troisième quart, vous voyez, du 8e siècle, et se terminer après 701, puisqu'on a la trace d'une campagne militaire dans laquelle il intervient. Oui. Isaïe, c'est intéressant de le dire tout de suite, hein, le prophète historique du 8e siècle n'est pas forcément, ou n'est pas d'ailleurs, d'après les historiens, celui qui a écrit l'ensemble du livre d'Isaïe. Mais on y reviendra aussi.
Oui, nous allons y revenir. Donc, ce prophète qui est né, qui a vécu en tout cas pendant ce 8e siècle avant Jésus-Christ, et qui a été, on va dire, conseiller des rois, pendant le règne de ces quatre rois.
Alors peut-être pas sous le règne d'Ozias, en tout cas je ne me souviens pas qu'on en ait beaucoup de traces. Par contre c'est sûr qu'avec Ézéchias et Akaz, on entend parler effectivement de ses relations avec les rois. Il est très actif auprès des dirigeants politiques, comme l'ont été en leur temps le prophète Samuel, comme l'a été le prophète Élie aussi. Donc là, on était au 11e siècle avec Samuel, puis 10e. Et puis Élie, c'est déjà le 9e. Et nous voilà au 8e siècle avant Jésus-Christ. Les prophètes vont petit à petit, hein, dans l'histoire que nous raconte la Bible, vont petit à petit s'éloigner du pouvoir pour être plus proches des gens du peuple et parfois introuvables par les rois. Mais pour l'heure, ça n'est pas le cas.
Ça n'est pas encore le cas. Le travail de la recherche exégétique a permis de découvrir que ce livre d'Isaïe est composé de trois grandes parties. À quoi correspondent-elles?
Alors c'est vrai, ça peut dérouter un petit peu nos chers auditeurs, mais il ne faut pas avoir peur des résultats de la science historique. Depuis, on peut dire assez largement, le 19e et le 20e siècle, l'exégèse notamment en langue allemande, mais pas seulement, a proposé un certain nombre d'hypothèses sur la rédaction, la composition du livre d'Isaïe. Et en effet, aujourd'hui, beaucoup, presque tous, à vrai dire, s'accordent à dire qu'on a du chapitre 1 à 39 du livre d'Isaïe, ce qui fait référence vraiment au 8e siècle et au prophète Isaïe. D'ailleurs, la meilleure preuve et la plus évidente pour le lecteur est que le nom d'Isaïe disparaît après le chapitre 39 et la tonalité change complètement. C'est-à-dire que nous sommes en Isaïe 1 à 39 à l'époque du grand empire assyrien qui, depuis la Mésopotamie, donc au nord-nord-est d'Israël, après la Syrie, vous voyez, la Syrie, l'apostrophe A2S-Iri,
oui,
n'est-ce
amour.
Pas c'est l'époque du prophète Isaïe, le 8e siècle. Alors que, quand on tourne une page de plus, enfin dans nos Bibles, parce qu'à l'époque c'était des rouleaux qui peut-être étaient disjoints et qu'ensuite on a copié ensemble, à partir du chapitre 40 commence ce qu'on appelle souvent le deuxième Isaïe ou Deutéro-Isaïe, Isaïe 40 jusqu'à 55, placé traditionnellement, et encore une fois c'est largement accepté maintenant, à l'époque de la fin de l'exil à Babylone. Nous ne sommes plus au 8e siècle mais au 6e, dans le troisième quart du 6e siècle à peu près, même si c'est peut-être un peu trop précis, voilà. Mais en tout cas, c'est dans ces environs-là. Et la troisième partie du livre d'Isaïe, donc pour ceux qui ont bien suivi, ça commence au chapitre 56 et ça se termine au chapitre 66, ce qu'on appelle donc parfois le trito troisième Isaïe, avec la période du retour de l'exil et donc où il faut rebâtir Juda et Jérusalem avec des perspectives beaucoup plus prometteuses, si je puis dire. Voilà. On a déjà pas mal d'espoir dans le deuxième Isaïe. Il est vrai que le premier Isaïe était dans « Essayons d'éviter la catastrophe », l'invitation à mettre sa foi dans le Seigneur et non pas à chercher le secours d'alliances politiques auprès des empires voisins, donc la Syrie dont nous avons parlé, et au sud-sud-ouest après Gaza, l'Égypte, bien sûr. Une invitation aussi, et on la retrouvera dans tout le livre, à reconnaître la sainteté du Dieu d'Israël. Isaïe est peut-être le prophète qui insiste le plus sur la sainteté de Dieu. Et d'ailleurs, on a en tête ce chant des anges que nous reprenons dans la liturgie et que Isaïe entend lors de sa vocation. « Saint, 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 le Seigneur, le Dieu des armées », on traduit souvent « le Dieu de l'univers ».
Ah oui. Est-ce qu'il y a une différence de style entre ces trois livres ?
Oui, il y a vraiment... alors, le plus facile à repérer, c'est que dans Isaïe 1 à 39, donc l'Isaïe du 8e siècle, ouais, par quelques exceptions, vous voyez, dans cette partie du livre, on a pas mal d'histoires qui concernent le prophète Isaïe. Je viens d'évoquer sa vocation, nous allons y revenir.
Ouais.
Et, on parle même de la famille d'Isaïe, on parle de sa relation avec les rois de Juda, les rois de Jérusalem. On trouve aussi tel ou tel geste prophétique qu'il a accompli. Est-ce que ça vous intéresse qu'on jette un petit coup d'œil ? Peut-être que je peux parler. Alors, c'est un petit peu choquant, mais ça aidera peut-être les auditeurs à se souvenir, parce qu'en fait, c'est tout à fait étrange. On a un oracle au chapitre 20 du livre d'Isaïe. Alors, je ne le trouve pas, ce n'est pas le chapitre 20. Exactement. À propos de la prise d'Ashdod, ça ne nous dit pas grand-chose, n'est-ce pas ? C'est la Philistie, on est sur la côte en Israël aujourd'hui, hein. Pas très loin de Gaza. C'est en fait l'annonce de la déportation en Assyrie pour un certain nombre de gens et transmise à Isaïe pour qu'il l'annonce au peuple avec un geste symbolique. Et en fait, Dieu commence d'abord par dire à Isaïe « Va, dénoue le sac que tu as sur les reins » et ôte les sandales de tes pieds. Alors ça nous paraît tout à fait étonnant, mais la suite l'est encore plus. Donc c'est Isaïe chapitre 20, puisque le texte dit « Et il fit ainsi, donc Isaïe fils d'Amoz, fit ainsi, allant nu et déchaussé. » Et en fait, la nudité du prophète qui se promène comme cela dans les rues de Jérusalem, peut-être pendant des mois, voire des années. Alors est-ce que ça s'est vraiment produit ? On ne sait pas
ça
exactement.
Surprend.
En tout cas, c'était une manière d'annoncer le dépouillement de ceux qui seraient déportés depuis l'Égypte et l'Éthiopie. On parle de couches. Les jeunes et les vieux seront nus, déchaussés et, dit le texte, fesses découvertes, à la honte de l'Égypte. Voilà, ça fait peut-être sourire les auditeurs qui ne sont pas horrifiés. Mais c'est pour dire que le prophète Isaïe est vraiment, après le Seigneur, bien sûr, le personnage principal de toutes ces parties du livre, avec des oracles qui oscillent entre l'invitation à la conversion, l'invitation à vivre selon la justice et à ne pas se contenter d'un culte vidé de sa signification, et puis aussi quelques oracles d'espérance quand même. Voilà. Et alors, la suite du livre est assez différente, puisque donc on a vraiment à partir du chapitre 40 des oracles. Alors, nous lisons beaucoup pendant le temps de l'Avent, les livres d'Isaïe, et notamment il y a une antienne que l'on entend souvent chanter en grégorien, consola mini populi meus. Et c'est le tout début d'Isaïe 40. C'est aussi l'un des couplets, si je puis dire, de l'hymne bien connu de l'Avent, Rorate Cheli. Donc peut-être que nos auditeurs en sont familiers. En tout cas, c'est le début.
Surtout quand on va à la messe de l'aube, c'est ça, avant la...
Ah oui, on parle des messes de Rorate, effectivement. Ouais. C'est vraiment... Les mots sont passés dans la tradition liturgique, dans l'Église. C'est très beau. Et c'est vraiment le tout début, Isaïe 40, verset 1, Consolez mon peuple, dit le Seigneur. Alors, peut-être qu'il y a une toute petite variante dans la reprise liturgique. En tout cas, on est dans un livre de la consolation, Isaïe 40 jusqu'à 55, qui est très très marqué aussi par la présence d'un personnage mystérieux. À quatre reprises au moins, Dieu dit « mon serviteur », où on parle du serviteur du Seigneur. Ça marque beaucoup ces 16 chapitres. En particulier dans la tradition chrétienne qui les a largement repris en voyant dans ce serviteur, vous le devinez,
le serviteur souffrant.
Voilà, le serviteur souffrant, le serviteur glorifié, le serviteur qui annonce la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Et bien sûr, les chrétiens y voient la figure de Jésus. Le peuple juif y a volontiers vu la figure du Messie que beaucoup attendent encore, hein, bien sûr. Mmh. Et puis la troisième partie du livre d'Isaïe, donc après le chapitre 55, depuis Isaïe 56 à 66, nous sommes donc dans une époque encore postérieure avec le texte que nous connaissons peut-être le mieux dans les églises catholiques, c'est « Debout, resplendis, Jérusalem, car voici ta lumière ». Voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Nous en parlerons, oui, dans
mais,
une prochaine mais,
voilà,
émission.
Avec des très beaux textes qui parlent de la renaissance, peut-être pas d'un royaume, parce qu'on voit bien qu'en fait, on est sous l'Empire perse, mais... Si le royaume de Juda, qu'on appelle aussi Israël à ce moment-là, connaît à nouveau une relative autonomie, les prophètes qui ont écrit la fin du livre d'Isaïe et qui ont ensuite, ces écrits ont été placés sous le patronage du grand Isaïe deux siècles avant au moins, eh bien ces hommes, ces femmes peut-être aussi, donnent vraiment une vision d'espérance, une sorte d'apocalypse bienheureuse, si l'on peut dire, un renouvellement qui va toucher tous les plans de la vie du peuple, de sa relation aussi avec son Dieu.
Donc voilà, trois styles différents pour ces trois livres d'Isaïe. Avant de marquer déjà une pause musicale, je voulais vous demander, Père Cyprien Comte, comment Isaïe a été envoyé par Dieu pour être son messager ?
Alors, à vrai dire, nous n'avons pas le film de l'époque. Peut-être que certains l'ont réalisé depuis, mais ce dont nous disposons, par contre, c'est un récit que fait Isaïe à la première personne. Nous sommes au chapitre 6 du livre d'Isaïe et le texte commence, c'est assez célèbre, hein, par « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur ». Et donc c'est le récit d'une vision que Isaïe annonce et c'est le moment où, raconte-t-il, il va se voir confier sa mission prophétique. Oh, il y aura sans doute d'autres moments où il comprend qu'il est appelé à être prophète, il y aura d'autres moments où le Seigneur l'envoie en mission de manière assez précise. Hein. Dieu parle à l'impératif à ses prophètes assez régulièrement. Et à vrai dire, le style de récit de cet appel prophétique fait penser à un certain nombre d'autres récits qu'on trouve dans la Bible. Alors ici, avec Isaïe, nous sommes dans le temple de Jérusalem. Est-ce en réalité, est-ce en vision? On ne sait pas exactement. Et puis, il décrit la majesté du Seigneur qui trône dans le temple. Des séraphins, dit-il, se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun six ailes. Ils se criaient l'un à l'autre ces paroles. Saint, saint, saint est le Seigneur Sabaoth. Sa gloire remplit toute la terre. Alors, Isaïe se lamente en disant « Je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures, mes yeux ont vu le roi ». Et alors que se passe-t-il? On connaît l'image et même l'iconographie est volontiers revenue sur ce motif. « L'un des séraphins, dit-il, vola vers moi, tenant dans sa main une braise ». prise avec des pinces sur l'autel, il m'en toucha la bouche, et donc cela purifie les lèvres du prophète, qui comprend sans doute que bien qu'il soit un homme pécheur aux lèvres impures, il va devenir capable, parce que Dieu le rend capable. On dit souvent ce slogan, on peut le répéter ici, Dieu n'appelle pas des gens capables, mais il rend capable ceux qu'il appelle. Et alors, ensuite, Isaïe entend Dieu, c'est assez étonnant, Dieu dire « Qui enverrai-je? Qui ira pour moi ?» Et Isaïe se porte volontaire, après quoi le Seigneur lui prédit, alors c'est un petit peu étonnant pour nous, lui prédit en quelque sorte l'échec de sa mission, c'est-à-dire l'endurcissement. Il dit même, Isaïe, appesantit le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille, englue-lui les yeux, de peur que ses yeux ne voient, etc. C'est assez étonnant. Dès le jour où Isaïe est appelé pour porter la parole du Seigneur, parce que c'est cela, la vocation prophétique, eh bien Dieu lui dit, il ne dit pas seulement, ce peuple ne veut pas t'écouter et te voir, il dit, rends-le aveugle et sourd. Très étonnant, comme souvent au moment où Dieu confie une mission à un prophète, il lui dit aussi qu'il rencontrera l'adversité.
Oui, que ça va être difficile.
Voilà,
ouais.
Et qu'à vues humaines, même si sans doute il y aura des succès, et même si la présence de Dieu est toujours acquise à ceux qu'il appelle et qu'il envoie, eh bien ça ne sera pas un succès à vues humaines, en tout cas pas à tout point de vue.
Alors, avant la pause, je vous propose que nous lisions un extrait du livre d'Isaïe, le chapitre 7, versets 10 à 17. Et puis comme ça, après, nous pourrons voir de quoi il s'agit quand Isaïe parle de l'Emmanuel. Le Seigneur parla encore ainsi au roi Akaz, « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. » Akaz répondit « Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. » Voilà, je laisse nos auditeurs méditer ce passage. Pendant cette pause musicale, nous écoutons la cantate BWV 70 de Jean-Sébastien Bach, Wartet, Betet, Betet, Wartet, interprété par l'ensemble baroque de Stuttgart et dirigé par Kate Johansson.
Thank you.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Isaïe est le grand prophète d'Israël. Qui est-il? Quel chemin nous indique-t-il pour nous conduire au Christ? Nous sommes avec le père Cyprien Comte, enseignant des prophètes bibliques à l'Institut catholique de Toulouse. Nous avons lu juste avant cette pause musicale un extrait du livre d'Isaïe, le chapitre 7, versets 10 à 17. C'est vraiment ici l'annonce explicite de la naissance de l'Emmanuel. Le terme de « Dieu sauve » est employé. Quel lien peut-on faire avec les évangiles, père Cyprien?
Dieu sauve, en hébreu, si l'on contracte le nom divin, cela donne le nom de Jésus, Yeshua, Yehoshua, Josué dans l'Ancien Testament, Jésus dans le Nouveau signifie Dieu sauve. Et en effet, la triste histoire du royaume de Juda à l'époque d'Isaïe, du royaume d'Israël aussi à la même époque, au 8e siècle et un peu avant, montre que en effet, le peuple du Seigneur a bien besoin d'être sauvé. Peut-être que c'est une de nos difficultés aujourd'hui quand nous oublions
que nous avons besoin
d'être sauvés. Voilà, c'est l'illusion d'un monde qui semble se suffire à lui-même, même s'il montre des signes de faiblesse, risque en effet de nous couper du Dieu sauveur si nous ne voyons plus le besoin impérieux que nous avons du salut. Il y a beaucoup de nos contemporains qui ne sont pas conscients qu'on a bien besoin d'un Dieu qui sauve et d'un Dieu puissant qui vient nous sauver.
C'est
vrai que ce nom de Dieu avec nous, Immanuel en hébreu, apparaît ici dans cet oracle d'Isaïe que vous avez lu avant la pause musicale. Donc nous sommes dans Isaïe 7 et au fameux verset 14, il est question d'un enfant qui va naître et à qui sa mère donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, Immanuel, avec nous, Dieu. Elle, c'est une des formes du nom divin dans l'Ancien Testament et dans les pays et les civilisations environnantes. Alors, nous sommes dans cette partie du livre d'Isaïe. Donc du 8e siècle,
même,
on est plutôt au début. Les chapitres 6 à 12 sont souvent regroupés sous le sous-titre « Le livre ou le livret de l'Emmanuel ». Vous voyez, on comprend bien que dans les Bibles chrétiennes, je ne sais pas si c'est le cas dans les livres des prophètes à la synagogue, mais en tout cas, on a souvent, nous, ce sous-titre-là. Et donc, dans Isaïe 7 au verset 10, c'est le Seigneur qui parle au roi Akaz, par l'intermédiaire sans doute, même si ça
de
n'est
ce
pas
prophète
dit
Isaïe,
ici,
alors.
Du prophète Isaïe. Ouais. C'est assez intéressant parce qu'on pourrait presque croire dans la manière dont le texte est rédigé que le Seigneur parle à Akaz sans intermédiaire, alors que juste avant, Isaïe vient de recevoir un oracle pour rassurer le roi Akaz dans une circonstance politique extrêmement inquiétante. Alors on se croirait dans l'actualité puisque c'est une guerre qui concerne, alors c'est le début du chapitre 7, juste avant l'oracle dont nous parlons, c'est une guerre qui concerne la Syrie et Israël. Voyez. Alors malheureusement, c'est terriblement actuel. Il est aussi très actuel que nous enregistrons l'émission le jour de l'Immaculée Conception, qui cette fois-ci tombe le 9 décembre, n'est-ce pas? Et donc nous lisons cet oracle qui est l'un des plus connus et qui est repris dans l'Évangile concernant la Vierge Marie et la naissance de Jésus. Vous avez entendu donc Isaïe 7, 14, après que Akaz a dit « Je ne veux pas demander un signe au Seigneur », alors que le Seigneur disait de demander un signe.
Oui, mais
pas
parce qu'il ne voulait pas le mettre à l'épreuve.
Ah, c'est ça, il dit « Je ne veux pas tenter le Seigneur, je ne veux pas le mettre à l'épreuve ». Eh bien, le Seigneur dit, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. « Voici, la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Alors si on a encore le temps de dire un petit mot sur ce texte, le prophète Isaïe intervient et c'est la deuxième fois qu'il intervient auprès du roi. Il invite à demander un signe pour confirmer la puissance de Dieu et la confiance du roi en retour. Mais Akaz, en fait, a déjà fait appel à un souverain terrestre pour l'aider. Voilà, le texte ne le redit pas ici. Et on voit bien qu'en fait, Isaïe veut lui en faire le reproche. Et le Seigneur lui dit, il faut mettre votre foi dans le Seigneur et dans le Seigneur seulement.
C'est ça.
Il y a un passage extraordinaire avec un jeu de mots en hébreu où Isaïe dit, le Seigneur fait dire au peuple par Isaïe, « Si vous ne tenez pas à moi, Dieu, vous ne tiendrez pas. » Et le verbe « tenir » en hébreu, c'est ici la racine « aman » qui a donné l'affirmation, l'acclamation « amen ».
Ah, oui.
« Aman », c'est la racine qui signifie la solidité de la promesse de Dieu, sa fidélité, en même temps que la foi que quelqu'un peut mettre en Dieu ou ne pas mettre en Dieu. Et par conséquent, c'est aussi le mot qui dit « tenir bon », »,« tenir ferme ». Et donc, quand Isaïe dit de la part de Dieu « si vous ne tenez pas à moi, vous ne tiendrez pas », on peut traduire, et on le fait souvent, « si vous ne croyez pas en moi, vous ne subsisterez pas ». Vous voyez l'importance de cette foi qui est vraiment un leitmotiv dans tout ce début du livre d'Isaïe. On parle sans doute du futur roi Ézéchias, qui est né en 740 dans cet oracle. Mais c'est intéressant de noter aussi, parce que beaucoup de nos auditeurs ont accès à l'Ancien Testament grâce à la liturgie et aussi grâce aux évangiles. Et il faut dire aussi que l'évangéliste Saint Matthieu, qui est très attentif à montrer le lien entre le mystère de Jésus, le mystère du salut, au temps nouveau, au temps de l'évangile, et l'ancienne alliance, on se rappelle les mots de Jésus dans le sermon sur la montagne, « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. »
Accomplir l'Écriture.
Et précisément, Isaïe est volontiers cité par le prophète Saint Matthieu, qui ici cite...
L'évangéliste Matthieu ?
C'est l'évangéliste Matthieu. Plutôt que le prophète Saint Matthieu.
Pardon. On s'y perd.
Heureusement, vous êtes là et les auditeurs rectifient aussi.
Oui. Donc, vous parliez de Matthieu.
Saint Matthieu,
voilà, Saint Matthieu,
au chapitre 1er, en fait, fait référence à ce texte de l'Ancien Testament. Il prend la version grecque, qu'on appelle la Bible des Septante, la Bible juive traduite à Alexandrie. Il y a une belle légende juive qui raconte comment 70 savants, 70 sages juifs ont donné tous la même version de la Bible hébraïque en grec.
Et donc ça, c'est bon signe alors.
Oui, ça tout à fait.
Si
voilà, c'est signe que le Seigneur voulait que ce soit cette version-là. Et en effet, on considère souvent que cette version grecque de notre Ancien Testament, à quelques lignes et à quelques livres près, est vraiment celle qui est lue, vénérée, entendue et qui structure la foi des églises orientales notamment. Quand on lit la Bible en grec, on lit d'habitude la Septante. Alors, dans ce passage de la Septante, Isaïe 7, 14, il est écrit « Voici, la Vierge est enceinte, elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Vous voyez, les Juifs d'Alexandrie qui écrivaient en grec ont traduit ce mot peut-être un petit peu moins clair en hébreu, la jeune femme, par la Vierge est enceinte. Alors, c'est tout à fait éclairant pour nous de voir que Saint Matthieu cite l'Ancien Testament grec au moment où il est question de l'assomption de la paternité de Jésus par Joseph. Et c'est à ce moment-là, lors du récit de l'annonce faite à Joseph, on est donc au chapitre 1 de Saint Matthieu dans l'Évangile, à partir du, vous vous rappelez, le dessein de répudier Marie, fiancée à Joseph, qui, sans avoir mené la vie commune avec lui, se trouve, dit le texte, donc Matthieu 1, 18, se trouve enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph se résout à la répudier, et l'interprétation chrétienne classique, c'est de dire que Joseph ne veut pas s'approprier cet enfant qui ne vient pas de lui, même si il n'a sans doute aucun doute concernant la probité et la moralité de sa fiancée. Eh bien, il ne veut pas qu'on croie que c'est son fils. Et c'est là que l'ange du Seigneur lui apparaît. Vous voyez, c'est incroyable. Dans Saint Luc, l'ange du Seigneur apparaît à Marie. Et dans Saint Matthieu, l'ange du Seigneur apparaît,
à
au
Joseph.
Chapitre 1, à ouais. Joseph. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, ça nous fait penser à l'oracle d'Isaïe.
Oui.
Et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et ici, on ferme les guillemets dans la traduction. Et l'évangéliste précise que c'était pour que s'accomplisse la parole prophétique, l'oracle prophétique du Seigneur. Et c'est la citation de Isaïe 7, 14.
Et pourtant, ce n'est pas le même nom.
Et pas tout à fait. Mais vous savez, les évangélistes ont une certaine liberté et eux aussi bénéficient de l'assistance du Saint-Esprit pour rédiger les évangiles. Alors, ils citent la prophétie d'Isaïe. « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel. » Et là, on traduit, au cas où quelqu'un ne connaisse pas bien l'hébreu, « ce qui se traduit Dieu avec nous. » Et puis ensuite, on a le récit de l'obéissance de Joseph. Donc, c'est extraordinaire de voir qu'on peut lire cet oracle d'Isaïe et en voir l'accomplissement montré de manière explicite par l'évangéliste.
Oui, c'est très concret, effectivement. Mmh. Oui. Qu'est-ce que cette annonce de la maternité, de la grossesse de la Vierge Marie et de l'annonce de la naissance de cet Emmanuel, qu'est-ce que cette annonce nous dit de l'attente du peuple d'Israël et de notre propre attente en ce début d'Avent ?
En fait, moi je crois que les circonstances historiques d'Isaïe éclairent notre manière de recevoir cette annonce. Isaïe est en relation avec le roi Akaz dans des circonstances terribles. Alors, ça me fait penser que vraiment, quelles que soient les difficultés que nous traversons, même quand tout semble perdu, voilà, il faut imaginer la situation, hein, Isaïe vient annoncer au roi la naissance d'un enfant comme un signe d'espérance et comme le signe explicite de la présence de Dieu. Et cela, c'est la première chose, je crois, que nous pouvons garder. Il y a aussi ce sens nouveau que l'évangéliste met en évidence avec le nouveau nom, puisqu'en fait, Jésus ne s'est pas appelé, littéralement, j'allais dire à son baptême, pardon, ne s'est pas appelé Emmanuel,
oui.
En fait, c'est un nom théologique que nous lui donnons et nous avons bien raison, puisque Jésus, c'est la présence même de Dieu, c'est Dieu parmi nous. L'évangéliste Saint Jean expliquera cela de manière limpide. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et donc, nous pouvons recevoir cette annonce, nous préparer à la naissance de Jésus et à sa venue dans la gloire aussi, avec la même foi qui est exigée du peuple d'Israël dans les plus grandes de ses épreuves. Alors que dans le royaume de Juda, la ville de Jérusalem elle-même est menacée de ruines et en fait elle va être préservée. Pendant le ministère d'Isaïe, les ennemis, aussi puissants soient-ils, ne pourront jamais conquérir Jérusalem, ne pourront pas mettre fin à la dynastie des rois de Juda. Et c'est aussi une invitation pour nous à reconnaître dans celui qui vient et qui est annoncé par les prophètes, eh bien le roi promis, le fils de David, et on aura l'occasion d'entendre ces lectures encore pendant le temps de l'Avent et le temps de Noël, c'est vraiment celui qui nous est promis et que nous devons accueillir de tout notre cœur, comme l'a fait la Vierge Marie, comme l'a fait Joseph, grâce à l'annonce de l'ange et aussi grâce aux prophéties qu'il connaissait et méditer de tout leur cœur.
Mmh. Alors, il y a un autre passage d'Isaïe qui est un petit peu plus loin, au chapitre 11, les versets 1 à 9, qui présente l'annonce du Messie, mais d'une façon différente, évidemment. Un rameau, et ça, ce passage, tout le monde l'entend pendant ce temps de l'Avent, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Je passe la suite pour avancer rapidement. Père Cyprien Comte, que nous dit Isaïe de ce Messie annoncé ?
Quelle annonce exceptionnelle. Vous voyez, j'ai sous les yeux quelques lignes du père Jacques Neuwirth, qui a enseigné à Toulouse, et pour qui ce texte figure parmi les plus beaux de la Bible. C'est très intéressant de voir comment donc c'est Isaïe 11, les premiers versets parlent de l'Esprit du Seigneur qui repose sur le Messie. Alors pourquoi est-ce que nous disons que c'est le Messie ? Peut-être qu'il faut traduire pour l'auditeur, un rejeton sortira de la souche de Jessé. Qui est Jessé ? C'est le père de David. C'est le grand roi aux origines d'Israël, à la suite de Saül, le roi que Dieu aimait. Et alors on a l'Esprit du Seigneur avec les sept dons traditionnels de l'Esprit Saint. J'invite les auditeurs à relire ce texte. Et ensuite nous avons Isaïe 11, versets 6 et suivants, 6 à 9. Le paradis retrouvé, avec ces expressions extraordinaires qui montrent le loup et l'agneau vivant ensemble. Donc nous avons
une réconciliation, finalement.
Une réconciliation même dans l'ordre naturel troublé, et les théologiens nous disent troublé par le péché des origines. C'est-à-dire que avec la venue de ce descendant de Jessé, de ce fils de David, non seulement nous avons un homme rempli, qu'on pourrait dire qu'il transpire l'Esprit Saint, mais aussi celui par qui la paix est donnée de manière définitive, par qui la paix est rendue sans doute encore bien au-delà des récits des origines où tout le monde et tous les animaux même vivaient dans une parfaite harmonie.
Donc une paix qui est donnée non seulement à l'homme, mais aussi à toute la création.
Tout le créé, c'est très contemporain, vous voyez, et on pense aussi à Saint François d'Assise, hein, il est bon de l'évoquer en terminant. Saint François qui a été tellement sensible au mystère de Noël et aussi au mystère de la création réconciliée. Voilà, Saint François d'Assise qui a mis en place la première ou l'une des premières crèches, n'est-ce pas ? Et qui est cet homme à qui on attribue, sans doute non sans raison, hein, la prière « Fais de moi un instrument de la paix ». Puis on voit cet homme qui louait le Seigneur, non pas seulement pour, mais par toutes ses créatures.
Oui. Voilà. Oui, oui. Merci beaucoup. J'invite nos auditeurs à relire donc ces deux passages que nous avons lus pendant cette émission. Il s'agit du livre d'Isaïe, chapitre 7, versets 10 à 17, et le second... Isaïe 11, voilà, c'est
versets
ça.
Versets 1 à 10.
Voilà, merci beaucoup, Père Cyprien Comte. Nous retrouvons
Isabelle.
Donc la semaine prochaine pour parler des deux prophètes, Michée et Malachie.
Merci.